L'émission sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans L'EM, l'émission quotidienne de Radio Évasion en direct à midi et rediffusée à 18h. Le jeudi, vous le savez, on est très nature avec nos différents partenaires. Ça faisait longtemps et il nous manquait nos amis d'Eau et Rivière de Bretagne. Ils sont bien occupés, ça n'arrête pas, malheureusement pourrait-on dire. Alors on a dû enregistrer cet entretien avec Anouk Bonjean. On va découvrir un peu les coulisses de cette grande association quinquagénaire, qui est Eau et Rivière de Bretagne, qui dispose de plein de commissions, mais notamment d'une commission biodiversité. Et c'est Anouk Bonjean qui en est la coordinatrice. Elle va nous expliquer les actions de cette commission et comment elle fonctionne aussi. Bonjour Anouk.
Bonjour.
Donc Eau et Rivière de Bretagne dispose d'une commission biodiversité, mais qui ne peut pas s'occuper de tous les sujets. Donc quels sont les grands sujets qui ont été choisis ?
Bon alors déjà, c'est vrai que nous, on s'intéresse vraiment qu'au milieu naturel aquatique. Donc il y a tout un pan de la biodiversité qui n'est pas vraiment sous notre radar. Après, c'est la biodiversité la plus menacée, hein. Les cours d'eau, ils ont perdu 90% de leur biodiversité ces 50 dernières années. C'est vraiment un enjeu, c'est un enjeu très très important. On s'est plutôt structuré par rapport à nos adhérents et à leurs appétences, en fait. Donc, il y a trois gros groupes, finalement. Il y a les refuges grenouilles, donc qui regroupent les propriétaires qui sont gestionnaires d'une mare, d'un plan d'eau et qui sont désireux d'accueillir plutôt les amphibiens chez eux. Voilà. Ça peut être après... Des collectivités, ça peut être des particuliers, mais aussi des professionnels. Ça regroupe vraiment tout plein de gens, même des associations.
Alors ça, c'est un sujet dont on avait déjà parlé. Donc, les auditrices et auditeurs pourront écouter l'émission. Mais juste en quelques mots, c'est un label qui a été créé par Eau et Rivière, c'est ça ?
Ouais, voilà, c'est ça. Alors, c'est plus vraiment un label parce que c'était compliqué de passer voir tout le monde. Donc, c'est plutôt un réseau d'entraide. Voilà. Donc les participants reçoivent des informations tous les trimestres en fonction des saisons pour respecter bien le rythme de vie des amphibiens et de toute la biodiversité aquatique du plan d'eau. Et on organise aussi des rencontres et des formations pour eux. Et
peut-être que Eau et Rivière vient quand même aider les gens qui veulent créer une mare, c'est ça, non ?
On donne des conseils personnalisés. Merci beaucoup, Véronique. C'est ça.
Il y en a combien des refuges grenouilles actuellement ?
Il y en a une centaine sur toute la Bretagne. On a atteint les 100 au printemps dernier. Donc je me souviens bien de ça. Mais depuis, il y en a eu d'autres, donc on a un peu plus de 100 là.
Et ce sont surtout des mares dans des jardins ou c'est des lavoirs ? C'est quoi exactement le profil ?
On a un peu de tout. Ça va des lavoirs en passant par les mares. Il y a quelques étangs aussi. Alors les étangs, c'est toute une discussion parce que pour la continuité écologique, voilà. Mais bon, on discute. Hein. Il y a plein de gens qui veulent bien faire quand même, qui savent pas. Et puis, c'est principalement ça. Hein. Il y a des gens qui ont des zones humides aussi, donc des prairies humides qui veulent bien gérer des forêts humides, ça arrive aussi, ouais. Mais bon, grosso modo, c'est vraiment des mares, en fait. Hein.
Alors, les refuges grenouilles, autre gros sous-groupe de la commission biodiversité de Haute-Rivière, les poissons migrateurs.
Voilà, les poissons migrateurs, parce que font partie d'Eau et Rivière de Bretagne beaucoup de pêcheurs qui s'inquiètent de la disparition des espèces migratrices. Le saumon en tête, mais l'anguille est concernée, la lose, beaucoup de poissons migrateurs. On a beaucoup de pêcheurs mais on est en lien aussi avec les associations de protection des milieux aquatiques, les APPMA. Et donc, on a beaucoup de pêcheurs qui nous représentent dans les comités de gestion de poissons migrateurs. C'est aussi des informations scientifiques qui vont aider les législateurs à prendre les bonnes décisions, en tout cas à prendre les décisions concernant les quotas de pêche, en fait.
Dans les rivières, bien sûr.
Tout à fait, dans les rivières.
Et le dernier grand groupe ?
Alors, le dernier grand groupe, il est tout nouveau, il est tout récent. Il s'appelle Engagé pour la haie. C'est un projet parce que Eaux et Rivières s'inquiète vraiment de la disparition de notre bocage et du réseau de haies sur le territoire breton, qui est toujours plus important, hein, malgré maintenant tout ce qu'on sait sur les haies et leur rôle pour les écosystèmes et la qualité de l'eau, bien sûr. Donc on a mis en place un projet en partenariat avec l'Office français pour la biodiversité. Et le but, c'est de recueillir un maximum d'informations sur la disparition du bocage. Ça va être aussi de diffuser les informations relatives à la protection du bocage aux élus, en fait, à tous ceux qui peuvent protéger les haies. Voilà. Donc c'est quand même beaucoup les élus, hein, parce que c'est via tout ce qui est les plans locaux d'urbanisme, etc. Et puis, bon, pour l'instant, donc on a embauché une chargée de mission, hein, une salariée, parce que les bénévoles ne peuvent pas tout faire. Mais c'est quand même les bénévoles qui orientent cette salariée pour mener toutes les actions de ce projet-là, qui est assez ambitieux quand même.
Oui, parce que s'il y a des études sur les effets de la disparition du bocage, il faudra des données concrètement.
Ouais, alors là-dessus, on a pas mal de choses. Ce sur quoi on manque vraiment de choses, c'est des cartographies précises de l'évolution du bocage. On ne sait pas dire. On sait qu'il y a plus de haies qui disparaissent par an que de haies plantées. Mais par contre, on ne sait pas dire combien exactement. On a des chiffres au niveau de l'État français, enfin de la France, quoi, je veux dire. Mais on n'a pas, au niveau Bretagne, on n'a pas grand-chose, quoi.
D'accord. Donc ça, ce sont les grandes thématiques, mais la commission biodiversité de Rivières de Bretagne, ce sont aussi des échanges avec des partenaires, puis une organisation.
Oui, bah voilà, donc on peut pas se... Enfin, tout seul, on est quand même beaucoup moins fort. Hein. C'est sûr qu'on avance plus vite, mais bon, on est moins fort. Donc on est de toute façon en lien avec notre fédération, qui est France Nature Environnement, en Bretagne aussi, France Bretagne Nature Environnement, FBNE. Et on a aussi un lien avec le collectif des associations naturalistes de Bretagne, quoi. Voilà.
C'est quoi, par exemple, les Bretagnes Vivantes, je suppose ?
Oui, voilà, Bretagne Vivante, le groupe Mammalogique Breton, Vive Armor Nature. Donc les membres de la commission biodiversité sont aussi ou engagés dans d'autres commissions interne à Haut-Rivières, où on est en lien, et donc ça, c'est les autres commissions internes à Haut-Rivières. Donc il y a la commission pesticides et santé, la commission agriculture, la commission politique de l'eau, économie d'eau. Enfin voilà, on a plein de commissions comme ça, la commission pédagogie, enfin tout plein de thèmes où les adhérents peuvent aller se...
S'impliquer.
Ouais, voilà, s'impliquer vraiment en fonction des thèmes, puisqu'on ne peut pas être partout, quoi. Donc on démultiplie nos forces comme ça.
Il y a combien d'adhérents actuellement à Eaux et Rivières de Bretagne ?
Il me semble qu'on est autour de 1300, mais je ne suis pas sûre.
Plus d'un millier, quoi. Ouais, ça fait des forces vives, quand même.
Ouais. Après, sur la quantité, il y a aussi... Enfin, il y a beaucoup de personnes qui, juste... payent leurs cotisations et on ne les revoit pas dans les instances, en fait. Hein. C'est pas... Il y a vraiment toutes sortes de bénévolat possibles, toutes sortes d'engagements possibles à Haut-Rivières.
Et alors, cette commission biodiversité comment est-ce qu'elle est organisée ?
En fait, ce qu'on organise, moi, en tant que salariée, en tout cas, c'est des rencontres et des échanges entre les membres de la commission et la diffusion de l'information et la montée en compétence des adhérents. Parce qu'on a vite des sujets très techniques où on peut se sentir dépassé. Et puis, il y a une appétence, de toute façon, pour apprendre encore et toujours plus de la part des adhérents. Donc, moi, j'organise deux réunions par an avec tous ces gens-là qui sont ensemble, voilà. J'envoie des informations régulièrement avec une newsletter. J'organise une journée technique pour organiser la montée en compétence. Donc là, je fais venir des experts et sur un sujet en particulier, et puis on se forme.
Ça peut être quoi, par exemple ?
Alors, la dernière fois, c'était sur les ripisylves. Donc les ripisylves, c'est cette bande de végétation au bord des rivières.
Oui, parce qu'il faut savoir que, en fait, c'est pas n'importe quelle plante. Il y a des plantes importantes. Et puis, pourquoi est-ce qu'il faut les maintenir ?
Oui, et puis il y a aussi un énorme enjeu avec le climat, là. Donc, et la santé de nos rivières. Donc, oui, il y avait plein de choses à voir. Et puis, il y a toute une politique avec les syndicats de bassins versants aussi. Enfin, il y a plein de choses sur les ripisylves à savoir. Oui, bien sûr. Et puis après, on a des listes de discussions par mail où là, il y a des débats. Alors, on n'est pas toujours d'accord. On discute. Voilà.
Alors, la commission biodiversité d'Eau et Rivières de Bretagne, ce sont enfin des actions concrètes. Alors, qu'est-ce que vous faites ?
Alors, on ne chôme pas. On ne chôme pas. Donc, déjà, on est présent dans les instances de prise de décision pour aider les personnes qui prennent des décisions à choisir les bonnes options. Donc, dans tout ce qui est comité de gestion Natura 2000, les comités de gestion des poissons migrateurs, au sein de l'Agence bretonne pour la biodiversité, etc. En fait, j'ai pas tout listé. Hein.
C'est quoi ces comités de gestion en général ? C'est des collectivités qui rassemblent des partenaires, c'est ça ?
Oui, voilà, souvent c'est ça. On est plusieurs partenaires autour de la table. Ça peut être aussi, par exemple, pour le parc marin d'Iroise, on est présent. Voilà, on met tout le monde autour de la table et on essaye de définir des orientations de gestion, en fait, sur certains sites. Voilà.
Ça demande du personnel, enfin, ça demande des gens qui sont bénévoles, en fait, la plupart du temps.
Oui, c'est ça. Ouais, Après, il y a des stratégies, par exemple, avec le département du Finistère, il y a la cellule d'animation des milieux naturels aquatiques, parce qu'il faut que tous ces milieux-là soient connectés. Et là, il y a des stratégies de gestion ensemble, quoi. Donc là, il faut vraiment regrouper tout le monde, en fait, hein, les agriculteurs, enfin, tous les acteurs du territoire qui ont ces milieux-là à gérer.
D'autres actions encore ?
Eh bien, il faut répondre aux consultations.
Répondre aux consultations, qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, répondre aux consultations. Eh bien, par exemple, quand il y a un projet qui est en passe d'être mis en place sur votre territoire, n'importe quel territoire, il y a la consultation du public.
Ça, enquête publique.
Ouais, une enquête publique, voilà, c'est ça. Donc, c'est vraiment ce principe-là. Et donc, on peut retrouver ces informations-là sur les sites Internet liés ou, par exemple, même chaque citoyen dans ses mairies. Et nous, on s'organise pour toujours rendre un avis sur tout ce qui concerne la biodiversité des milieux naturels aquatiques. Donc, par exemple, une extension de pisciculture, on va essayer de rendre un avis, voilà, ce genre de choses.
Un aménagement quelconque, une route.
Voilà, exactement. Bah, après, il faut que ça concerne une rivière quand même. Ou une zone humide à aménager, ou un truc comme ça, quoi. Voilà.
D'accord. Alors, répondre aux consultations, et sinon quoi d'autre ?
Eh ben, on essaie d'organiser des contestations quand on n'est pas content et de lancer des alertes. On a un rôle de lanceur d'alerte quand même. Hein. Donc, dans les bonnes nouvelles, on avait lancé un recours pour interdire les pesticides dans les zones Natura 2000 avec notre fédération. Et ça a fonctionné. Donc ça, déjà, c'est une bonne nouvelle. L'État français est condamné parce que on n'a plus le droit de mettre des pesticides dans des zones Natura 2000. On avait alerté nos députés aussi sur un amendement qui était passé sur les continuités écologiques. Donc ça, c'est pour les propriétaires de moulins sur les rivières. Et ça casse la remontée des migrateurs.
Ah oui, ça, c'est vrai que c'est un grand sujet là, pour ceux qui possèdent des anciens moulins. Eux, ils voudraient utiliser les biefs, enfin l'énergie, c'est ça, faire tourner des roues. Mais en fait, le problème, c'est que ça empêche les poissons de passer, c'est ça ?
Ouais, c'est un sujet qui est vraiment très, très, très conflictuel et sur lequel on a beaucoup, beaucoup de mal à dialoguer. Et même au sein d'Eau et Rivières, parce qu'en fait, au sein d'Eau et Rivières, il y a des propriétaires de moulins et aussi des personnes qui sont très inquiètes de la disparition des poissons migrateurs. Donc, on sait qu'en redonnant une libre circulation à la rivière, en enlevant les biefs, en enlevant tous les obstacles, eh bien, les poissons migrateurs se reproduisent mieux et que les stocks se reconstituent. Après, les poissons migrateurs, ils sont aussi très, très sensibles parce qu'ils vivent aussi en mer et que toute la partie de leur vie en mer, elle est pour nous ingérable, en fait. On n'a pas prise là-dessus. Mais c'est vrai que sur la continuité écologique, c'est un gros problème. Parce que quand, à l'époque, des moulins, le meunier, il ouvrait les vannes 4 fois par jour, 5 fois par jour, les moulins actuels, qui sont plus des objets des maisons, quoi, en fait, des maisons habitées, mais il n'y a pas d'activité économique derrière.
Justifie moins, quoi.
Puis les biefs ne fonctionnent plus, en fait. Les gens les ouvrent une fois ou deux par an pour dire, voilà, mais le mécanisme, il ne marche plus. Donc, le truc reste fermé et puis les poissons, ils passent plus. Il y a plusieurs problèmes liés à ça, en fait. Il n'y a pas que le coût des poissons. Il y a le problème des sédiments. Enfin, c'est un sujet qui mériterait toute une émission.
Oui, parce que quelque part, si, imaginons quelqu'un qui possède qui vit dans son moulin, qui voudrait être autonome en énergie et utiliser l'eau de la rivière, lui, finalement, il ouvrirait son bief plus souvent, non ? Ça pourrait, à la limite, être compatible ?
Oui, c'était une des grosses interrogations, en fait, qu'on a eues à un moment donné, surtout sur le truc des énergies renouvelables, en fait, là. Et donc, on a fait une étude, alors c'est pas nous, c'est une APPMA, mais je me rappelle plus laquelle, qui a fait une étude sur la pertinence, en fait, de vouloir faire de l'énergie avec ces biefs-là. Et en fait, ça fonctionne pas. Enfin, c'est beaucoup trop peu. Enfin, c'est bien trop peu pour être vraiment vraiment intéressant, en fait. Voilà, c'est une étude scientifique, hein, qui le dit. Donc après. C'est vraiment très conflictuel pour les gens, c'est vraiment... Ouais.
Bon, c'est pas réglé, en tout cas. Et qu'est-ce qu'il y a eu d'autre, ouais, comme chantier, qui ont abouti ou pas, d'ailleurs, hein ?
Eh ben, bon, alors, sur les lanceurs d'alerte, là, ce qui est en cours, c'est que là, on est contre un nouveau quota de pêche à la civelle. Donc, la civelle, c'est les larves des anguilles. Anguille, qui est une espèce qui est vraiment en train de disparaître. Hein, là, on peut le dire, elle est en voie d'extinction, qui était très, très, très courante. Et puis la civelle, donc ces fameuses larves, c'est un marché très, très, très juteux. Et pour le même...
C'est consommé, c'est ça ?
Oui, voilà, c'est un mets de choix. Et puis, il y a beaucoup de pêche illégale, en fait, de braconnage aussi. Donc, on n'a pas tous les chiffres. Mais bon, là, donc ça faisait quelques années que les quotas étaient en baisse. Et là, cette année, ils ont été remontés, quoi. L'État français a décidé de remonter les quotas.
Ah, on a quand même le droit de pêcher des civelles.
Ouais. Il y a un quota, par contre. Bon. Mais après, il y a aussi tout le braconnage qui sort du viseur, mais voilà. Et donc, en gros, là, cette année, l'État dit qu'il y a une étude qui atteste que tout est bon. Mais nous, l'étude qu'on a, elle nous dit que tout est rouge et qu'il faut surtout arrêter de pêcher. Il ne faut même plus du tout pêcher la civelle. Et nous, nos études sont publiques, on peut les trouver. Bon, c'est en anglais, mais ça marche, hein, voilà. Et là, l'étude sur laquelle se base cette décision de l'État, elle n'est pas rendue publique. Donc, on voudrait à minimum pouvoir la consulter. Parce que là, on est quand même très inquiet pour cette espèce. Après, y a pas mal de choses, hein, sur les lanceurs d'alerte. Et puis après,
ouais, par exemple, ouais.
On est assez inquiet sur la modification du régime d'écoulement des eaux dans les rivières. Donc, qu'est-ce qui se passe ? En fait, ce qui se passe, c'est que à cause du changement climatique et de l'urbanisation et de la destruction des talus, des haies, on a des à-coups hydrauliques. En fait, l'eau arrive très très vite dans la rivière, la remplit d'un coup.
Quand il a beaucoup plu, par exemple, c'est ça ?
Tout à fait, c'est ça. Les pluies sont plus fortes et elles sont moins freinées de par la disparition des infrastructures naturelles. Et donc, l'eau monte très vite. Elle est souvent chargée en limon. Donc ça, c'est ce qui donne la couleur marron aux rivières. Hein, donc c'est juste la terre qui s'en va. Ça n'a rien de naturel, hein, cette couleur. Et puis, après, le niveau baisse et s'ensuit souvent une sécheresse. Hein. Les saisons sèches sont de plus en plus sèches. Et là, le niveau de la rivière baisse et on a l'effet inverse, quoi. Et ça, ça nous inquiète beaucoup parce que les habitats internes à la rivière, dans une rivière, il y a plusieurs habitats. Il y a des gravières, il y a des herbiers, enfin, il y a plusieurs habitats différents. Et ben, ces habitats-là sont en danger. Et donc, quand un habitat est en danger, ça fait plusieurs dizaines, centaines d'espèces différentes qui disparaissent. Donc après, c'est un effondrement général parce qu'on sait bien qu'une chaîne alimentaire, c'est finalement un réseau. Donc ça marche tant qu'il y a assez de maillons. Mais à partir d'un moment, tout s'effondre parce qu'il n'y a plus assez de maillons. Donc là, on est assez inquiet. On cherche encore un moyen de lancer l'alerte. On ne sait pas trop comment s'y prendre. On est en train de réfléchir vraiment qu'est-ce qu'on pourrait faire pour rendre ça visible, lisible, pour qui on pourrait alerter là-dessus, comment on pourrait rendre ça visible, en fait. C'est un des travaux en cours.
Et là, en fait, c'est quand même la solution, ce serait de remettre du bocage. Enfin, ça rejoint le sous-groupe sur les haies, c'est ça ?
En fait, il y aurait plusieurs solutions. Enfin, il y aurait plusieurs... Il y aurait vraiment plusieurs choses à faire. Déjà, il y aurait... à revoir quand même vraiment en profondeur les politiques d'occupation de l'espace, en fait, pour être plus économe, plus frugal, parce que là, on consomme beaucoup trop. Hein. La Bretagne, c'est la troisième région de France la plus artificialisée. Quand on parle d'artificialisation, il ne faut pas tout de suite penser à l'urbanisation, enfin, je veux dire, à l'imperméabilisation. L'artificialisation, c'est quand on fait changer au sol sa structure. Donc, par exemple, si on décide de planter du maïs dans une zone où avant il y avait une prairie, ou par exemple quand on décide de planter des grandes forêts de résineux, quand il y avait une prairie ou une zone humide ou quoi que ce soit, bah là aussi on parle d'artificialisation. Donc voilà, c'est un peu plus vaste. Et en fait, tout ça, donc la Bretagne est vraiment très, très concernée par ça, en principalement quand même avec la construction de logements et de routes. Malgré tout, c'est quand même ça qui prime. Mais,
donc, on réduirait cette artificialisation. Déjà, ça empêcherait les à-coups dans les rivières. Enfin, ça limiterait.
Bah, ça permettrait d'avoir plus de surface de percolation quand il pleut, en fait. C'est vraiment ça. Il faudrait restaurer des zones humides. Parce que là, on continue de les détruire. Là, il y a une affaire en ce moment où on voudrait détruire une zone humide pour mettre des panneaux solaires dedans. Et parce que les zones humides, elles continuent d'être décriées. Ce n'est pas du tout des zones qui sont appréciées des gens, malheureusement. Mais on en a vraiment besoin.
Parce que là, elles jouent un rôle d'éponge, en fait, c'est ça, hein, pour retenir un peu l'eau avant qu'elle aille dans la rivière.
Oui, éponge, filtre, ralentisseur de crue, enfin... C'est énorme, tout le rôle. Et puis, absorption de CO2, énormément. Et puis, réservoir de biodiversité. Enfin, je pourrais en dire et en redire sur les zones humides. Hein. Oui, bien sûr. Puis, elles sont très diverses, en plus. On imagine la zone humide avec une belle prairie fleurie, mais il peut y avoir des bois humides. Il y a toute une typologie aussi. Et elles ont toutes des fonctionnalités aussi un peu différentes. Quoi. C'est assez... Ça peut être aussi un peu compliqué à comprendre, mais voilà. Et sur cette histoire de modification d'écoulement des eaux, il y a cette occupation de l'espace qu'il faudrait absolument revoir. Il y a les haies, les talus qu'il faudrait absolument refaire. Il y a l'agriculture qu'il faudrait quand même sérieusement réinterroger parce que la production de nos aliments, là, ça va pas, en fait. Hein, voilà. Bon, on revient toujours un peu sur le même sujet, malheureusement, mais les effets sont combinés.
Un petit mot de conclusion positif, malgré tout, sur cette commission biodiversité.
Oui, le positif, bien sûr.
Essayons.
Non, mais ce qui est positif, c'est les gens qui se bougent. Et il y en a, même les bottes aux pieds, parce que donc, dans la commission biodiversité d'eau et rivière, il y a aussi toutes les actions bénévoles qui tournent autour des chantiers de restauration de rivières, ou encore de restauration, des rénovations de mares, de restauration de fontaines et de lavoirs. Et cet automne, par exemple, il y en a eu vraiment beaucoup. Et, un petit clin d'œil à la maison de la rivière de Sizun qui a rénové 3 mares sur leur sentier pédagogique. Donc les visiteurs peuvent aller voir ça. Elles vont être prêtes pour les premières reproductions de cet hiver. C'est quand même génial et ça a un effet tout de suite concret. Voilà. Et puis ils ont refait toute une session de mares là, sur les Lornes. Ils ont fait un super boulot dans une prairie magnifique. Heureusement qu'il y a des gens qui se bougent. Et c'est vrai que des fois, on peut être un peu découragé parce qu'on a l'impression de mettre des petits morceaux de scotch sur une énorme fissure. Mais c'est quand même fantastique de voir toute cette énergie qui est très utile pour le coup.
Merci à nous.
Au revoir, merci à tous.
Et le prochain LEM avec Eaux et Rivières de Bretagne, ce sera le 20 janvier.